Ibrahim Akane, vous avez suivi les événements politiques sur le continent africain en 2024. Quels ont été, selon vous, les événements politiques les plus marquants en Afrique en 2024 et comment ces événements ont-ils influencé les populations, que ce soit sur le plan social, économique ou sécuritaire?
Alors, l'Afrique de l'Ouest, encore une fois, a été vraiment le théâtre de beaucoup d'événements qui continue de marquer l'année 2024 en Afrique de l'Ouest. D'abord, il y a les événements politiques au Sénégal qui ont conduit à l'avènement de Pastef et de Ousmane Sonko au pouvoir, après des péripéties assez rocambolesques, si je puis dire, parce qu'il a fallu l'intervention du Conseil constitutionnel sénégalais qui a, par la même occasion, redoré son blason auprès de la population, pour que la situation politique ne se détériore pas. Au Sénégal, il y a la crise entre trois pays de la CEDEAO qui ont créé l'Alliance des États du Sahel et qui ont décidé de quitter la CEDEAO, plongeant l'organisation régionale dans une sorte de crise dont elle n'est pas encore sortie. Et il y a également les problèmes liés à la situation politique difficile en Guinée qui montrent encore que les régimes militaires en Afrique de l'Ouest ont encore de beaux jours devant eux. Ça, c'est, si je puis dire, la partie ouest-africaine. En Afrique de l'Est, on a la crise du Soudan, un pays qui est en train de méthodiquement, lentement, mais sûrement, de se disloquer complètement, et cela sous le regard, je ne sais pas, impuissant ou autre, je ne sais même pas quel qualificatif utiliser, de tous les leaders de l'Afrique. Personne n'a essayé de peser de son poids, ni l'organisation continentale, ni les pays qui paraissent être les plus puissants sur le continent, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Algérie, le Maroc et autres, n'ont rien fait pour que la descente aux enfers du Soudan ne s'estompe. Les soubresauts au Kenya sont quand même aussi importants parce que c'est la jeunesse kenyane qui s'oppose à une manière de gérer le pays par le président de la République. Ça également, pour moi, c'est vraiment un aspect important. Et il y a naturellement les élections avec leur lot de crises, leur lot de problèmes. La dernière élection en date est celle du Mozambique qui a vu la victoire du parti au pouvoir, mais une victoire qui est contestée. Vous avez les élections en Namibie qui étaient aussi des élections au résultat contesté. On a même le sentiment maintenant que les régimes politiques qui sont issus des mouvements de libération sont en train de perdre pied sur le continent. Et ça également, c'est un élément important à prendre en compte. Donc vous voyez que la situation sur le continent était très, très, très difficile. Et je ne vous ai même pas parlé de la crise permanente maintenant de l'Union africaine, qui est pratiquement invisible, inaudible, dans les crises que le continent a connues. J'ai jamais vu, par exemple, une présidence de l'Union africaine. On dirait comme un peu une cerise sur le gâteau africain des problèmes. La présidence mauritanienne de l'Union africaine qui a été pratiquement inexistante. De mémoire d'observateurs, on n'a jamais vu une présidence aussi silencieuse, une présidence aussi invisible que celle du président de la Mauritanie cette année à la tête de l'Union africaine. C'est vraiment triste pour le continent parce que si nos institutions ne marchent pas, ça a un effet sur le fonctionnement de nos États.
On peut parler aussi de cette crise permanente en RDC et de cet accord entre l'Éthiopie et la Somalie.
Oui, la crise de la RDC, pour moi, je veux dire, ce n'est pas totalement une crise en tant que telle parce que la RDC est en crise depuis plus d'une dizaine d'années. Tous les efforts ont été entrepris. L'année dernière, c'était la SADC. L'année d'avant, c'était la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Est qui avait essayé. Et une année auparavant, c'était l'Union africaine par le Conseil de paix et de sécurité qui s'était essayé à trouver une solution. Donc, si je n'ai pas parlé de la RDC, c'est que, bon, en RDC, on a l'impression qu'on est maintenant rentré dans une sorte de routine. Pour ce qui est de l'accord entre la Somalie et l'Éthiopie, peut-être on peut considérer que les Éthiopiens sont revenus à la raison après avoir voulu signer un pacte, si je puis dire, avec le diable du Somaliland pour pratiquement acter la dislocation du pays. Mais dans cette affaire, ce qui est un peu frustrant, c'est le fait que la solution à la crise a été trouvée en dehors du continent. Elle a été trouvée par la Turquie qui a des intérêts dans la région. Surtout que dans cette affaire, il y avait quand même un des principes les plus importants de l'Union africaine, le principe de l'intangibilité des frontières, qui était en cause. Et sur cette question, l'Union africaine ne peut pas dire qu'elle ne savait pas parce que l'Éthiopie abrite le siège de l'Union africaine. Et pourtant, malgré tout cela, elle est restée silencieuse face au problème et quand une solution a été trouvée, elle a applaudi. Ça veut dire que aussi que les solutions africaines aux problèmes africains, c'est devenu un leurre. C'est devenu presque impossible d'avoir une solution africaine à des problèmes africains parce que les Africains ne sont plus capables de discuter et de parler ensemble pour trouver des solutions. Il faut que l'extérieur vienne encore nous secourir dans ce genre de situation.
On peut aussi noter la fin de l'accord de coopération militaire entre la France et le Tchad.
Oui, mais en réalité, cela est une ce qui s'est passé des années, l'année précédente, en 2023. Parce que là, en 2023, c'est le départ de la France a été annoncé, le départ de la France a été presque acté. D'abord par trois pays dans lesquels la présence française était certaine, on dirait même était un peu solide. Que ce soit au Niger ou au Mali, c'était vraiment une présence assez solide. Mais les événements ont pratiquement accéléré le processus de désengagement de la France de l'Afrique de l'Ouest. Et on peut même maintenant envisager la fin, puisque le Sénégal demande à ce que la France retire ses bases militaires de son pays, et donc il ne restera pratiquement que la Côte d'Ivoire. Et donc, on peut dire que le départ est acté. Une autre situation qui est née, c'est le fait que les autres forces militaires qui sont dans la région, les forces américaines et allemandes qui étaient installées au Niger, ont été obligées de partir. Donc, une nouvelle phase est en train de naître en Afrique à partir de l'année 2024. C'est la phase de la fin des présences militaires sur le continent. Mais on ne sait pas clairement quelle direction les choses vont prendre parce que si c'est le Sahel, c'est les Russes et dans les autres zones comme au Tchad et autres, bon, jusqu'à présent, il n'y a pas encore une bonne lisibilité des événements pour qu'on puisse dire clairement que c'est la fin totale des présences militaires sur le continent. En tout cas, un pas important a été franchi dans ce domaine-là.
Avec la montée des mouvements citoyens et des revendications démocratiques dans plusieurs pays africains, quelles évolutions aux ruptures politiques peut-on anticiper en 2025? Quels seront les principaux défis?
Alors, le mouvement citoyen n'ont pas, je veux dire, la même force dans toutes les régions d'Afrique et dans tous les pays. Par exemple, on a vu qu'au Kenya, en Afrique de l'Est, les mouvements citoyens ont pratiquement imposé leur vue au président de la République. En Afrique de l'Ouest, au Sénégal, d'une certaine façon, c'est le mouvement citoyen, finalement, qui a forcé le président Macky Sall à quitter le pouvoir. Alors, et dans beaucoup d'autres pays, la Guinée, le Togo, le Ghana, les mouvements citoyens commencent vraiment à prendre de l'envergure. Et cela amène, en tout cas, amène à réfléchir sur l'efficacité du système de démocratie représentative. Parce que la démocratie représentative reposait sur l'idée que les citoyens élisent des représentants qui vont et qui agissent en leur nom. Mais de plus en plus, ce qu'on remarque, c'est que les citoyens n'ont plus confiance en leurs représentants. Ils ne pensent plus que ces personnes-là les représentent ou que ces personnes représentent eux-mêmes. Et donc, j'ai comme l'impression qu'on va assister à plus de demandes de démocratie participative. Et ces demandes de démocratie participative vont requérir le changement de beaucoup de normes constitutionnelles. Le Sénégal en donne déjà une pétition de la justice qui ont été organisées après l'avènement du président Diomaye Faye. Une des premières choses qui a été décidée, c'est que les citoyens maintenant veulent prendre une part active dans le contrôle du système de justice. Que les citoyens veulent, lorsqu'ils ne sont pas d'accord, pouvoir saisir la justice constitutionnelle pour faire part de leur opposition et pour demander à la justice constitutionnelle de trancher sur un certain nombre de questions. Donc ça montre que il y a une évolution qui est en train de prendre forme, et j'espère que cette évolution va aider dans beaucoup de pays à permettre à la population de mieux faire entendre sa voix et à la population de pouvoir s'opposer à certaines prises de décision. Et cela sera concomitant à aussi une diminution des pouvoirs présidentiels, parce que l'hyper-présidentialisme a été dénoncé un peu partout en Afrique, et j'espère qu'on verra au début des années 2025 dans certains pays, surtout les pays qui sont en transition démocratique, ou tels que la Guinée, tels que le Burkina Faso, tels que le Niger, ou bien même en Afrique de l'Est, dans des pays comme le Kenya et autres, il va falloir que les gens commencent à réfléchir sur les modalités de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques, et ensuite aussi comment faire en sorte que les pouvoirs du président soient totalement revue de manière à permettre un certain équilibre entre les différents pouvoirs qui se partagent l'État.
Et dans un contexte où des élections majeures sont prévues dans plusieurs pays en 2025, quel mécanisme devrait être renforcé pour garantir des processus électoraux transparents et inclusifs qui répondent réellement aux aspirations des populations africaines ?
Ce que j'ai remarqué en 2024, si je prends l'expérience du Sénégal, si je prends l'expérience du Ghana, c'est que, en réalité, c'est dans les pays eux-mêmes qu'on doit trouver les solutions. Les institutions régionales, les institutions continentales ont un impact très, 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 très limité dans la manière dont les élections se déroulent, et parfois même elles constituent plus ces institutions internationales le problème. Si vous regardez, par exemple, ce qui s'est passé au Mozambique cette année, et que la SADC est restée complètement à fond, complètement en marge du processus, alors que une intervention de sa part aurait permis au moins de mieux gérer les problèmes et de mieux gérer la situation. Donc, de mon point de vue, les changements qu'on doit avoir pour que des élections se passent dans de meilleures conditions, c'est des changements au niveau national. C'est le national qui doit imposer sa marque et faire en sorte que les élections se déroulent normalement. Vous avez vu au Sénégal, on devait avoir une élection à deux tours, mais la tension était telle que les électeurs eux-mêmes se sont dit « Non, on ne veut plus d'élection à deux tours, on veut que le monsieur parte. » Dès le premier tour, le président a été élu, et puis avec une confortable marge de 54%. Donc, si on permet au peuple de bien s'exprimer, si on permet aux institutions de bien fonctionner, et vous avez vu qu'il n'y a pas eu de contestation, aussi bien à l'élection présidentielle qu'à l'élection législative récente au Ghana, avant même la proclamation des résultats, le vaincu a reconnu sa défaite, et les choses sont allées très rapidement. Donc c'est en renforçant ces mécanismes-là au niveau national, qui vont servir d'exemple pour les autres pays, qu'on pourra vraiment aller de l'avant dans les aménagements de systèmes démocratiques qui vraiment permettent de respecter la voix de la population.
Ibrahim Makan, merci beaucoup pour votre analyse et perspective.
Merci beaucoup, et puis bonne année à tous vos auditeurs, et on espère que 2025 sera d'abord une année de paix en Afrique. On en a assez de ces crises interminables, on en a assez des morts, on en a assez des blessés. On veut que l'Afrique, comme tous les autres continents, travaille d'arrache-pied pour améliorer la situation économique, sociale et politique des Africains.
Merci beaucoup.